Pourquoi je respecte Voltaire après l'ironie voltairienne que je me suis permis d'avoir depuis un moment? C'est parce qu'il est un homme qui sait dire non. Et on a besoin d'hommes qui sachent dire non. Ce qui veut dire parfois du courage physique, mais d'abord du courage intellectuel, de sortir des conformismes. Son combat contre l'Église est à mon avis très dépassé, mais il y a d'autres combats contre d'autres formes contre des formes de dictature actuelle, contre des formes de barbarie actuelle, que moi j'ai appelé la barbarie par l'indifférence, qui est de dire tout ça c'est pas mon problème, c'est les autres, les bad people ça m'est égal. Et ben, il faut des gens courageux.
Pour reprendre la religion, est-ce qu'on pourrait dire Voltaire et Rushdie, même combat?
Rushdie c'est davantage la barre que Calas. En somme, le blasphème, l'incrédulité affichée, l'intégrisme religieux qui ne s'émeut que si. Ayez une religion et on s'entendra.
Et c'est dans ce sens que vous dites Voltaire nous manque?
Je crois, oui. Donc je revenais, on en fait ce numéro de revue de l'Infini en 1989. Je vous demandais à mes camarades, Voltaire, encore une idée de Solaire, je fais n'importe quoi. Et puis le numéro est sorti au moment même de l'affaire Rushdie. Et d'ailleurs, Pomo fait ce long, cet immense travail sur la vie de Voltaire. Il est bien obligé de conclure aussi
sur
l'affaire Rushdie. On l'appelle Rushdie parce que Rushdie est en pointe. Mais enfin, il y a évidemment tous les gens dont on ne peut pas citer les noms, qui sont égorgés encore hier en Algérie, ailleurs, etc.
Des injustices, il y en a tous les jours. Des scandales, moraux et politiques, il y en a tous les jours. Et vous savez, tous les intellectuels aujourd'hui sont sollicités constamment pour donner une signature, ce qui est vraiment mineur. Et déjà, on fait plus ou moins. Je dois dire que c'est un modèle sans fin pour nous tous, parce que... Et quel est celui d'entre nous tous depuis la guerre qui a mis une énergie aussi incroyable que Voltaire pour un cas individuel d'injustice au point d'en faire l'affaire la plus célèbre du XVIIIe siècle? Et c'est quand même lui.
Et pour empêcher qu'il n'entre quelques pensées en contrebande dans la sacrée ville impériale, commettons spécialement le premier médecin de sa hautesse, né dans un marais de l'Occident septentrional, lequel médecin, ayant déjà tué 4 personnes augustes de la famille ottomane, est intéressé plus que personne à prévenir toute introduction de connaissances dans le pays. Lui donnant pouvoir, par ses présentes, de faire saisir toute idée qui se présenterait par écrit ou de bouche aux portes de la ville, et nous amener la dite idée pieds et poings liés pour lui être infligée par nous, tel châtiment qui nous plaira. Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharrem, l'an 1143 de l'Égir.
De l'horrible danger de la lecture, tome 3 des Nouveaux Mélanges de 1765.
C'est justement ça qui est, je pense, au centre d'une nouvelle tentative de tyrannie mondiale, à savoir que petit à petit, et de façon très douce, vous savez comme moi que les gens ne savent plus lire. Alors j'ai publié récemment un numéro de revue où ils ne veulent plus lire, ils n'ont plus le temps, enfin ils sont dans l'incapacité, ce muscle n'étant pas entraîné, de lire. Et alors il y a des gens qui sont venus m'apporter un numéro de revue, l'Infini, très bonne revue. Alors ils ont fait un éditorial drôle. Ils disent, voilà, tout le monde écrit aujourd'hui, tout le monde peut devenir écrivain, mais bientôt on va se demander qui sait lire. Et puis alors même, on sera obligé de faire des grandes émissions avec quelqu'un qui sera là, et on sera obligé de se pencher sur son cas, mais comment vous est venue l'idée de lire? Alors vous savez lire, c'est pas... Et alors on pourra... Voilà.
Vous disiez même que pour la langue française, peut-être que le meilleur combat consisterait à relire du Voltaire, précisément.
Oui,
apprendre aux gens à lire, peut-être.
Oui, plutôt d'abord apprendre à lire. Ou plutôt déclencher chez eux un désir. Mais si on ne l'a pas soi-même, c'est ça qui est terrible. Parce que nous vivons, comme vous savez, le temps où il y a déjà une génération et demie, au moins, qui est élevée par le système du spectacle en dehors de la capacité de lire. Alors, pas de lecture, pas d'esprit critique, pas d'individualité, pas donc de résistance, passivité du spectacle, du spectateur. Les droits de l'homme, spectateur. C'est probablement... que ça a une efficacité encore plus grande qu'on ne veut pas le croire, puisque c'est un mot de Rushdie que j'ai cité dans mon dernier, c'est qu'en réalité, tout pouvoir redoute en priorité l'écrit. Mais ça nous est caché. Donc les Iraniens ont fait un effort pour nous signaler que ça restait parfaitement valable. Mais nous, on fait semblant, du moins les pouvoirs font semblant que. Mais en réalité, je crois que pas du tout. Je crois que ça garde une virulence particulière. Mais ça serait formidable si on arrivait à faire croire aux gens que ça n'a plus d'importance, que c'est pas la peine qu'ils écrivent.
Je crois que plutôt que de censurer, il vaut mieux faire que les gens ne lisent plus. On ne sache pas lire.
Alors c'est la censure préalable. Donc, comme ça, la question, dissuader ceux qui pourraient écrire, leur dire à quoi bon, tout ça, c'est fini. Ou alors, et puis de dire, fabriquer en quelque sorte, jour et nuit, de nouveaux analphabètes. C'est exactement le programme.
Mais ça n'est pas très difficile. Ça. On a des instruments pour cela.
Oui, il y a de gros moyens à cet effet, je crois, qui sont dépensés.
Je crois qu'il y a de bons résultats.
Excellent.
Je crois que c'est une réforme qui a marché.
C'est pour ça que Voltaire nous manque.
Eh oui.
Il nous manque tellement de choses.
Tomber par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute.